RFI. Grand reportage, Laurent Sadoux.
Deux tiers des Africains n'ont pas accès à l'électricité. 650 millions d'hommes et de femmes qui vivent surtout en milieu rural, où les réseaux électriques n'arrivent pas. Une bonne partie des citadins bénéficient certes du courant, mais il est souvent produit avec des combustibles fossiles polluants. Le grand défi pour l'électrification de l'Afrique est donc de développer les énergies renouvelables. Le continent ne manque pas de matières premières en ce domaine. L'Afrique regorge de soleil et de vent. Mais le savoir-faire et les moyens financiers pour investir dans les nouvelles technologies font défaut. S'il y a un pays africain qui montre bien l'exemple, eh bien c'est le Cap-Vert. Cet archipel de 10 grandes îles, dont 9 sont habitées, au large du Sénégal. Depuis 2012, le Cap-Vert produit un quart de son électricité à partir de sources renouvelables. Et ce petit pays de 600 000 habitants joue un rôle de conseiller, de formateur sur le continent africain et surtout dans les États membres de la CDEAO, la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. L'énergie du vent et du soleil, l'Afrique s'inspire du Cap-Vert. Voici le grand reportage de Christine Siebert. Christine, que l'on retrouve pour en parler dans un quart d'heure. Voici son reportage.
Il faut escalader une échelle à la verticale pour atteindre le toit du bâtiment de 5 étages qui héberge les locaux de l'ECRE, le Centre pour les énergies renouvelables et l'efficacité énergétique de la CDAO. C'est un peu sportif, surtout avec le matériel d'enregistrement à la main. L'excursion vaut la peine, déjà pour la vue grandiose sur les beaux quartiers de Praia, la capitale du Cap-Vert. On est dans le quartier des ambassades, des bougainvilliers fleurissent dans les jardins, la mer brille au loin. Sur ce toit, une cinquantaine de panneaux photovoltaïques travaillent en silence. Ils permettent au centre d'être pratiquement autosuffisant en énergie, explique le directeur de l'ECRE, Mahama Kapia, et les Ghanéens.
Voilà. Ici, là, on a une installation pour 15 kW. Mm-hmm. Le 15 kW, c'est suffit pour nous, mm-hmm. sans le climatiser.
D'accord, donc dès que vous ne mettez pas la clim, ça produit assez.
Pour les autres, là, les ordinateurs, les frigos, les, tout ça, là, ça marche et ça marche très bien.
Ah, très bien.
Ça fait 5 ans déjà qu'on l'utilise sans problème.
Avec ces installations, l'ECRE montre l'exemple. Le centre a également mis son expertise au service d'autres organisations internationales installées à Praia.
Ici, on a fait le bâtiment des Nations Unies. Oui. C'est plus grand que ça. Uh-huh. Là-bas, c'est 25. Kilowatts.
Ah oui.
Oui. Et le bâtiment de l'Union européenne aussi, on a fait, c'est 15 kilowatts aussi.
D'accord.
Oui, oui, c'est le toit qu'on a fait là. Mais on est en train de faire pour les autres organisations internationales qui intéressent ça là, on va faire pour eux.
Mais le rayonnement de l'ECRE va beaucoup plus loin. Son but est de développer les énergies renouvelables en Afrique de l'Ouest, souligne Mahama Kapia.
Maintenant, il y a un projet au Ghana, 200 mégawatts d'éolien. Mm-hmm. Il y a aussi à Dakar. Des projets par 50 MW éoliennes aussi.
Donc tout ce que vous faites, tout votre travail, la motivation, c'est entre autres la protection de l'environnement, la réduction des gaz à effet de serre.
Si on peut produire de l'énergie à travers des énergies renouvelables qui coûte moins cher que le pétrole, je crois qu'on commande ça. Et l'environnement, c'est un plus.
C'est un plus.
Oui.
C'est d'abord économique pour le développement économique.
Et environnement en plus, très bien ça.
Oui, bien sûr, parce que bon, si on n'a plus de planète,
on a une petite planète dans la galerie.
Merci, ciao, merci beaucoup. Ciao, ciao.
À quelques kilomètres de là se trouve un autre centre névralgique animé par le souci de préserver la petite planète et d'accélérer le développement économique grâce aux énergies durables. C'est le CERMI, le Centre des énergies renouvelables et de la maintenance industrielle. Christina Paolo coordonne la coopération du Luxembourg qui cofinance ce centre. Elle en détaille les objectifs.
C'est un centre de formation, mais aussi investigation, développement. On aura aussi un volet d'incubation d'entreprise et appui technique, surtout aux jeunes Cap-Verdiens qui vont démarrer une activité économique sur le domaine de l'énergie renouvelable et de la manutention industrielle. Et on essaye aussi, avec le gouvernement du Cap-Vert, de monter, je ne sais pas si on peut dire monter,
oui.
Bien initier un fonds sectoriel qui peuvent aussi appuyer cette démarrage des petites entreprises du secteur privé qui pourraient travailler dans qui
Por allá. Por aquí, por allá, par ici ou par là. Pendant que Cristina Paolo parle, nous avons commencé à visiter le CERMI. C'est Ricardo Gomez, un jeune ingénieur, qui nous guide. Il nous emmène voir une série d'éoliennes et de panneaux solaires installés pour l'étude et la recherche aux abords du bâtiment.
Ici, nous avons plusieurs types de panneaux solaires, quatre types différents. Ils sont là à des fins pédagogiques. Ce que vous voyez ici, ce sont des panneaux qui s'orientent selon le soleil. Ils suivent le soleil.
Il bouge tout seul et parce qu'il a un système de programmation, il suit la direction du soleil de façon automatique.
Ah d'accord, c'est incroyable. Ouais. Donc il bouge comme des fleurs un peu.
Oui, oui, c'est ça. On a tous les systèmes parce que, comme je t'ai dit, c'est aussi une fonction pédagogique. Hein.
Oui, c'est
alors
ça,
on a tous les systèmes pour montrer et expérimenter avec les étudiants.
À l'instar de l'ECRE, le CERMI a lui aussi la vocation d'impulser le développement des énergies alternatives sur le continent africain.
Le Cap-Vert, je pense que vous le savez, c'est dans la région de la CEDEAO, de l'Afrique subsaharienne, c'est le pays qui c'est un peu le pionnier, on peut le dire. Hein. C'est le premier pays qui vraiment a fait investissement très fort dans les énergies renouvelables. À ce moment, ce centre, c'est aussi un projet pilote dans la région. Mmh. Et on essaie de faire un peu le benchmarking pour les autres pays de l'Afrique subsaharienne. Et ce qu'on fait ici pendant un an, c'est surtout l'assistance technique. On se concerne toutes les questions soft, par exemple faire une étude de marché près de la région CEDEAO, aussi une étude de marché près des autres pays qui parlent le portugais. Alors c'est un peu l'appui, mais dans des questions soft.
Le Cap-Vert est donc pionnier, tout le monde s'accorde là-dessus. Et l'ingénieur capverdien Ricardo Gomez sait pourquoi.
Pourquoi Cabo Verde?
Pourquoi le Cap-Vert? Je dirais que c'est parce que nous y croyons. Nous croyons que c'est possible. Nous sommes jeunes, notre indépendance date d'il y a 40 ans, nous avons l'impression d'être un modèle pour l'Afrique, une référence politique, une référence en termes de croissance économique. Nous n'avons pas beaucoup de ressources naturelles. Par conséquent, nous misons tout sur la capacité humaine. Nous avons réussi beaucoup de choses avec peu de ressources. Nos ressources, ce sont le soleil, le vent et l'eau de mer. Si le soleil nous donne de l'énergie, on la prend. Nous n'avons pas de pétrole, nous devons donc l'acheter pour une partie de notre production énergétique et nous n'avons pas beaucoup d'argent pour ça.
Comme dit Ricardo, je pense que c'est très important, c'est que vraiment le Cap-Vert n'a pas de ressources naturelles.
C'est vrai ce que vous dites, c'est presque une chance pour le Cap-Vert de ne pas avoir des gisements de pétrole, parce qu'on a vu les pays qui ont beaucoup de pétrole se reposent un peu sur ça et s'endorment un peu. Hein, alors que le Cap-Vert vraiment se débrouille.
Parce qu'ils n'ont pas des ressources naturelles et ils n'ont pas de pétrole. Ils n'ont pas aussi des problèmes de gouvernance, ils n'ont pas des problèmes de guerre interne, etc. C'était pays
de corruption.
C'est vraiment un exemple, hein, exemple de gouvernance démocratique pour les autres pays de la région.
Le Cap-Vert produit déjà un quart de son électricité grâce aux énergies solaires et surtout éoliennes. C'est Cabeolica, une entreprise fondée sur un partenariat public-privé qui gère les quatre parcs éoliens du Cap-Vert.
Ah, c'est vrai, c'est bon.
Anna Montero, cadre administratif de Cabeolica, nous emmène en voiture pour aller visiter la ferme éolienne aux abords de Praia. Sur un plateau, une douzaine d'éoliennes font tourner leurs ailes majestueuses. Nous sommes attendus par Valdemar Lopsch, ingénieur en charge de la supervision du parc.
Welcome to our Santiago.
Bienvenue au parc éolien de Santiago, le plus grand parc du Cap-Vert. Nous avons 11 éoliennes, chacune à une puissance de 850 kW. Ce plateau se situe à 250 mètres au-dessus du niveau de la mer et les conditions de vent sont exceptionnelles ici.
We have a great condition for wind power.
Cabeolica a été fondée en 2009, mais au Cap-Vert, on a cherché à exploiter l'énergie du vent il y a bien plus longtemps. un peu en retrait des turbines de Cabeolica, plusieurs éoliennes sont là à l'arrêt. Les précisions d'Anna Montero.
Ces trois-là sont des vieilles turbines. C'était un projet pilote financé par le gouvernement danois en 1994. Elles sont très vieilles et elles n'ont pas été très bien entretenues. Personne ici n'était formé à la maintenance de ces turbines. On n'avait pas le savoir-faire.
Les Danois, effectivement, tout le monde en parle. Nous sommes dans les bureaux de l'association de protection de l'environnement ADAD. Les murs de la salle de réunion sont tapissés d'affiches qui montrent des tournesols se muant en éoliennes. Marcelino Fortes est ingénieur. Il réfléchit au sein de l'association au développement des énergies renouvelables. Et en faisant cela, il a les yeux rivés vers le Danemark.
Parce que l'énergie renouvelable est encore au début. Oui. On voit le Danemark, comment ils sont avancés sur l'éolique. Là, on voit ça sur la mer, sur les côtes. Oui. On voit un peu partout au Danemark. Donc, on peut faire ça ici. Vous avez Cape Eolk, ce qu'ils ont fait, on peut faire encore plus que ça.
Combien de temps ça dure une éolienne avant qu'il faut la réparer ou la remplacer?
10 ans.
Pas plus?
Et certains disent qu'il peut aller jusqu'à 15-20 ans. Oui. Mais moi, comme technicien, comme ingénieur, je dis que 10 ans, c'est la garantie. À partir de 10 ans, il faut commencer à faire les réparations. S'il y a des gens pour faire la maintenance, ça peut aller jusqu'à 15 ans.
Depuis quelques années, l'ADAD conçoit des projets pour favoriser l'éolien et d'autres énergies alternatives. Mais il y a beaucoup d'obstacles à dépasser.
J'ai travaillé beaucoup, on a fait même des projets, des énergies renouvelables pour 120 ans, mais on n'a pas eu le financement. Et pour ça, nos projets sont là encore dans le tiroir. Le projet de 130 ans était pour éliminer une zone de 53 maisons et avec l'énergie solaire et éolienne.
Combien de temps il faut pour rentrer dans les frais?
C'est difficile parce que les gens de cette zone, ils sont très pauvres.
Oui.
On a essayé de prévoir des compteurs pour voir si on peut comptabiliser ce qu'ils consomment et faire les gens payer quelque chose pour ne pas donner.
Oui.
Parce qu'on ne peut pas donner des trucs. Parce que si vous donnez quelqu'un de l'énergie renouvelable, il va croire que c'est quelque chose qui vient du ciel. Alors là,
oui.
C'est donc on veut que ces gens-là payent quelque chose
oui.
aussi pour compenser l'investissement.
Tout le problème est là. Plus d'un tiers des Cap-Verdiens vit sous le seuil de pauvreté. Certains arrivent à peine à se nourrir. Nous sommes dans la banlieue de Mindelo, sur l'île de São Vicente. Vanis Eliane Lapsch-Preira et son mari Aldin Orlando Krustich vivent avec leurs deux petits garçons dans une minuscule cabane. Aldin a construit cette maison de ses mains avec ce qu'il a trouvé ici et là, quelques planches, de la tôle ondulée. Le jeune couple n'a ni eau ni électricité.
J'aimerais bien installer l'électricité ici, mais je dois nourrir mes enfants. Et comme je n'ai pas de travail régulier, je n'ai pas assez d'argent. Pour moi, la priorité est de nourrir mes enfants. L'installation du courant électrique vient après.
Mindelo est le haut lieu du carnaval capverdien. Et cette période du carnaval est le seul moment dans l'année où Aldin trouve du travail et l'aide à construire les scènes de spectacle. Aldin peint aussi de magnifiques tableaux qui décorent ce minuscule espace par ailleurs austère. Mais il n'arrive pas à les vendre. Sa femme, Vanessa Eliane, gagne quelques sous en revendant du poisson aux voisins, poisson qu'elle achète à un moindre prix au marché. Tout ça est loin de suffire pour joindre les deux bouts. Mais il n'empêche que Vanessa Eliane rêve d'avoir un jour le courant.
Pour nous, ça changerait tout si on pouvait avoir le courant électrique. On n'aurait plus besoin d'utiliser des bougies pour s'éclairer. Les bougies sont dangereuses. En plus, on a des petits-enfants. Le problème, c'est qu'on vit éloigné du centre-ville. Ça coûterait cher d'amener l'électricité ici. Mais ce serait un tel changement pour nous. Je vous donne un exemple. Quand on n'a pas de bougies, on utilise le gaz pour s'éclairer. On allume un peu le gaz de la cuisinière. Ça aussi, c'est un danger pour les enfants.
Juste derrière la cabane de cette jeune famille commence la campagne. Des paysans élèvent des poules et cultivent du maïs, des pommes de terre, des haricots et des oignons. Ricardina Teresa de Rosario et son mari Jo Amancio Ferreira ont construit une baraque aux abords de leur champ. Eux aussi aimeraient tellement avoir l'électricité.
Si on avait le courant, on achèterait un frigo. Ça nous permettrait de conserver du poisson et de la viande. Bref, de quoi manger, puisque nous passons la journée entière ici, sur les champs.
Je pourrais même monter un petit commerce. Je pourrais vendre des boissons fraîches, de l'eau fraîche ou de la nourriture à la centaine de personnes qui travaillent aux alentours.
Ricardina attend donc avec impatience que le réseau électrique arrive jusque dans sa petite cabane.
J'attends, bien sûr, mais ce sera pour quand? Ça fait 10 ans qu'on attend.
Depuis des années, le gouvernement nous dit « On attend que les conditions économiques soient réunies pour qu'on amène le courant du parc éolien jusque chez vous. On attend donc une chose qui ne vient jamais. »
Au Cap-Vert, 3/4 de la population ont accès à l'électricité. En misant sur les énergies renouvelables, le gouvernement a l'intention ferme d'atteindre les 100%. Un grand merci à tous les participants. L'énergie du vent et du soleil, l'Afrique s'inspire du Cap-Vert. Un reportage de Christine Siebert, réalisation Souel Kedir.
Christine Siebert, bonjour.
Bonjour Laurent.
Alors 3/4 des Cap-Verdiens ont donc accès à l'électricité, vous le dites hein, dans votre grand reportage, mais dans le reste de l'Afrique, seul 1/3 de la population a le courant électrique. Qu'est-ce qui est prévu pour permettre aux Africains de combler ce déficit?
Un vaste programme d'électrification du continent africain a été récemment lancé, Laurent, par une 30aine de maires, tous membres de l'Association internationale des maires francophones, dont Anne Hidalgo, la maire de Paris, et les maire des principales villes africaines et puis l'ancien ministre de l'écologie Jean-Louis Borloo. Il est d'ailleurs porteur du projet avec sa fondation Énergie pour l'Afrique qu'il a créé cette année, début mars. Le principal défi, ce sont les ressources financières à trouver. Il faudrait environ 50 milliards de dollars par an jusqu'en 2030 pour électrifier l'Afrique subsaharienne. C'est le chiffre donné par l'Agence internationale de l'énergie. Le but prononcé est de miser sur les énergies renouvelables d'une part pour préserver l'environnement et le climat et d'autre part parce que les énergies alternatives sont par définition décentralisées. Ça, c'est très important, Laurent. C'est très difficile d'acheminer l'électricité dans des endroits reculés. Donc, la bonne solution est d'implanter des éoliennes ou des panneaux photovoltaïques qui fournissent l'énergie localement.
Alors, pourquoi le Cap-Vert, cette question qui me vient là tout de go, pourquoi le Cap-Vert est tellement plus avancé dans ce domaine que les autres pays africains?
Alors, il y a plusieurs facteurs. Vous avez entendu dans le reportage les arguments des collaborateurs du CERMI, de ce tout nouveau centre de recherche et de formation pour les énergies renouvelables. Christina Paolo parle de la bonne gouvernance du Cap-Vert. Elle m'a expliqué aussi que c'est un point essentiel pour attirer les investisseurs. Et vous l'avez compris, il faut de gros investissements pour monter un parc éolien ou photovoltaïque. Prenons l'exemple du projet de Marcelino Forte, cet ingénieur qui raconte dans le reportage qu'il veut créer un parc éolien et photovoltaïque pour 53 maisons sur l'île de San Natao. Pour ce projet, il cherche 200 000 euros. C'est le coût de l'investissement initial.
Alors c'est l'investissement initial, comme vous le dites à l'instant, mais après c'est quasiment gratuit. Hein. Le soleil et le vent, ça coûte rien.
C'est évidemment tout l'intérêt des énergies renouvelables, en plus du fait qu'elles ne détruisent pas l'environnement. Une fois l'investissement initial amorti, le bénéfice est presque de 100%, sauf qu'il ne faut pas oublier la maintenance. Comme ça s'est passé pour les premières éoliennes installées dans les années 90 par le Danemark, on les aborde aussi dans le reportage, et qui ne marchent plus faute de maintenance. Donc on a appris grâce aux erreurs du passé. Les parcs éoliens qui fonctionnent actuellement au Cap-Vert bénéficient d'une maintenance régulière et les parcs photovoltaïques encore plus, je dirais, parce que ces panneaux ont besoin d'encore plus de soins. Ils sont très sensibles à la poussière. Il faut savoir que les vents du Sahara chargés de poussière arrivent jusqu'au Cap-Vert et ce n'est pas très bon pour les panneaux photovoltaïques. C'est la raison pour laquelle l'énergie du soleil est moins développée au Cap-Vert que l'énergie du vent.
Ce sera le mot de la fin. Un grand reportage à réécouter sur
RFI.fr.
Christine Siebert, merci beaucoup. Puis on va éteindre la lumière et puis on va laisser le vent faire son travail. Merci beaucoup.
Merci.
Écoutez,